Le frère de la côte, chapitre 7. Il n'y avait qu'un seul couvert au bout d'une longue table dans la salle pour le lieutenant. C'est là qu'il prenait ses repas, tandis que les autres prenaient le leur dans la cuisine. Assemblée quotidienne, étrangement assortie, que servait Catherine, toujours inquiète et silencieuse. Pérol, soucieux et affamé, faisait vis-à-vis aux citoyens ses voilà en habit de travail. Celui-ci avait l'air plus absorbé et plus fiévreux que l'ordinaire, et les taches rouges de ses pommettes étaient très accentuées au-dessus de sa barbe drue. De temps à autre, la maîtresse de la ferme se levait de la place qu'elle occupait près du vieux Pérol et allait dans la salle servir le lieutenant. Les trois autres semblaient ne point prêter attention à ses absences. Vers la fin du repas, Pérol, appuyé au dossier de sa chaise, posa son regard sur l'ex-terroriste qui n'avait pas encore achevé et qui dévorait de l'air d'un homme qui a beaucoup travaillé toute la matinée. La porte de communication entre la salle et la cuisine était grande ouverte, mais aucun bruit de voix n'arrivait de la salle. Jusque-là, Pérol ne s'était guère inquiété de l'état d'esprit des gens avec qui il vivait. Maintenant, au contraire, il se demandait quelles pouvaient être les pensées de cet ex-terroriste, de ce pauvre diable sanguinaire qui jouait le rôle de patron de la ferme d'Escampobar. Mais lorsque le citoyen Sévola leva enfin la tête pour prendre une longue gorgée de vin, rien d'imprévu n'apparut sur son visage haut en couleur, qui ressemblait étrangement à un masque peint. Leurs regards se croisèrent. « Sacrebleu !» s'écria Pérol à la fin, « si vous ne dites jamais rien à personne, comme cela, vous finirez par ne plus savoir parler. » Le patriote se mit à sourire dans les profondeurs de sa barbe, un sourire qui semblait toujours à Pérol, idée préconçue peut-être, la grimace défensive d'un petit animal sauvage qui aurait peur d'être cerné. « De quoi voulez-vous qu'on parle ? » rétorqua-t-il. « Vous vivez avec nous. Vous n'avez pas bougé d'ici. Je suppose que vous avez dû compter les grappes de raisin dans l'enclos et les figues sur le figuier contre le mur, plus d'une fois. » Il s'arrêta pour prêter l'oreille au silence complet qui régnait dans la salle, et il dit ensuite, en élevant légèrement la voix, « Vous et moi, nous savons tout ce qui se passe ici. » Pérol plissa le coin de ses yeux avec un regard pénétrant. Catherine, qui desservait la table, avait l'air complètement sourde. Son visage, couleur de noix, aux joues et aux lèvres rentrées, aurait pu être sculpté tant ses rides demeuraient immobiles. Son maintien était droit, ses mains rapides. « Il n'y a pas besoin de parler de la ferme, » dit Pérol. « Vous n'avez pas appris de nouvelles récemment ?» Le patriote secoua la tête avec violence. Il avait horreur des nouvelles publiques. Tout était perdu. Le pays était mené par des parjures et des renégats. Toutes les vertus patriotiques étaient mortes. Il frappa du poing, puis resta aux aguets comme si le coup avait pu éveiller un écho dans la maison silencieuse. On n'entendit pas le moindre bruit. Le citoyen Sévola soupira. Il pensait être le dernier des patriotes, et, même dans sa retraite, sa vie n'était pas en sûreté. « Je sais, » dit Pérol, « j'ai vu toute l'affaire du haut de ma fenêtre. Vous savez courir comme un lièvre, citoyen. Fallait-il donc me laisser sacrifier à ces brutes superstitieuses ?» répliqua le citoyen Sévola d'une voix aiguë et avec une indignation sincère que Pérol observa avec froideur. C'est à peine s'il put l'entendre murmurer. Peut-être aurait-il mieux valu que ces chiens de réactionnaires me tuent cette fois-là. La vieille femme qui lavait quelque chose sur l'évier jeta un regard inquiet vers la porte de la salle. « Non !» s'écria le sans-culotte solitaire. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir encore en France un certain nombre de patriotes. Le feu sacré n'est pas éteint. » On eût dit d'un homme à la tête recouverte de cendres, au cœur plein de désolation. Ses yeux en amande avaient l'air éteints. Au bout d'un moment, il lança sur Pérol un regard de côté, comme pour juger de l'effet, et se mit à déclamer à mi-voix « Non, non, ce n'est pas possible. Un jour viendra où la tyrannie sera ébranlée et où le moment sera venu de l'abattre de nouveau. Nous sortirons par milliers. Ça ira !» Ces mots, et même l'énergie passionnée avec laquelle il les prononça, laissèrent Pérol insensible. La tête dans sa forte main brune, il pensait si visiblement à autre chose que le faible esprit de combativité terroriste s'effondra dans le cœur solitaire du citoyen Sévola. Le reflet du soleil dans la cuisine fut obscurci par la silhouette du pêcheur de la lagune qui, dans l'encadrement de la porte, salua timidement la compagnie. Sans faire un mouvement, Pérol tourna vers lui les yeux avec curiosité. Catherine, s'essuyant les mains à son tablier, remarqua « Vous arrivez tard pour votre dîner, Michel. » Il entra, prit des mains de la vieille femme une écuelle et un gros morceau de pain, et les emporta aussitôt dans la cour. Pérol et le sans-culotte se levèrent de table. Ce dernier, après avoir hésité, passa brusquement dans le corridor, tandis que Pérol, évitant le regard inquiet de Catherine, se dirigeait vers la cour de derrière. Par la porte de la salle, il aperçut Arlette qui, assise très droite, les mains sur les genoux, regardait quelqu'un qu'il ne pouvait voir, mais qui ne pouvait être que le lieutenant Réal. Dans la chaleur écrasante de la cour, les poules, par petits groupes, faisaient la sieste sur des taches d'ombre. Pérol, lui, ne prenait pas garde au soleil. Michel, qui mangeait son dîner sous le toit en pente de la remise, posa par terre son écuelle et rejoignit son maître près du puits qu'entourait un petit mur de pierre et que surmontait un arceau de fer forgé sur lequel un figuier sauvage avait poussé un maigre rejeton. Après la mort de son chien, le pêcheur avait abandonné la lagune, laissant pourrir sa barque sur ce pauvre rivage et ses filets serrés dans sa sombre cabane. Il ne voulait pas avoir d'autre chien, et d'ailleurs, qui lui en aurait donné un? Il était le dernier des hommes. Il fallait bien que quelqu'un fût le dernier. Il n'y avait pas place pour lui au village. Aussi, un beau matin, était-il monté à la ferme pour y voir Pérol, ou plus exactement, pour que Pérol le vît. C'était absolument le seul espoir de Michel. Il s'assit sur une pierre en dehors de la barrière, avec un petit baluchon qui consistait principalement en une vieille couverture et un bâton recourbé qu'il posa près de lui. Il avait ainsi l'air de la créature la plus abandonnée, la plus douce et la plus inoffensive de la terre. Pérol avait écouté gravement le récit confus qu'il lui fit de la mort du chien. Personnellement, il ne se serait pas fait un ami d'un chien comme celui de Michel, mais il comprenait très bien que l'homme eût quitté brusquement sa misérable installation au bord de la lagune. Et quand Michel eut terminé par ces mots, « J'ai pensé que je pourrais venir ici », Pérol, sans attendre une requête plus explicite, lui dit « Très bien, je vous prends comme équipage ». Et il lui avait montré le sentier qui descendait à la mer. Et comme Michel, ramassant son paquet et son bâton, s'en allait sans attendre d'autres instructions, il lui avait crié « Vous trouverez un pain et une bouteille de vin dans le coffre arrière pour déjeuner ». Telles furent les seules formalités de l'engagement de Michel comme équipage à bord de la tartane de Pérol. Celui-ci, sans perdre de temps, avait voulu réaliser l'intention qu'il avait de posséder une embarcation quelconque. Il n'était pas facile de trouver quelque chose qui en valût la peine. La population misérable de Madrague, petit port de pêche qui fait face à Toulon, n'avait rien à vendre. D'ailleurs, Pérol ne vit qu'avec mépris ce qu'il possédait dans ce genre. Il aurait préféré acheter un catamaran fait de 3 billes de bois liées par du rotin plutôt qu'une de leur parc. Mais il découvrit, abandonné sur la grève, penché sur le côté d'un air mélancolique, une tartane à 2 mâts dont les cordages, blanchis par le soleil, pendaient en festons et dont les mâts desséchés montraient de longues craquelures. On ne voyait jamais personne faire la sieste à l'ombre de sa coque sur laquelle les mouettes s'étaient établies comme chez elles. Elle avait l'air d'une épave rejetée à ses avants sur la grève par une mer dédaigneuse. Pérol, qui l'avait d'abord examinée de loin, vit que le gouvernail était encore en place. Il la parcourut des yeux et se dit qu'un bâtiment avec des lignes pareilles naviguerait bien. Elle était beaucoup plus grande que ce à quoi il avait pensé, mais sa grandeur même avait un attrait. Il eut l'impression que toutes les côtes de la Méditerranée seraient à sa portée, les Baléares et la Corse, la côte barbaresque et l'Espagne. Pérol avait navigué des milliers de lieues sur des bâtiments qui n'étaient guère plus gros. Derrière son dos, un groupe de femmes de pêcheurs, maigres et têtes nues, avec un essaim d'enfants en guenilles pendus à leurs jupes, considéraient en silence le premier étranger qu'elles eussent vu depuis des années. Pérol emprunta dans le village une petite échelle. Il pensait qu'il valait mieux ne pas confier son poids à l'un des cordages qui pendait sur le flanc du bateau, et la transporta jusqu'à la grève, suivie à distance respectueuse par les femmes et les enfants ébahis. Il se voyait l'objet de l'étonnement des naturels, comme cela lui était arrivé autrefois, sur plus d'une île dans des mers lointaines. Il grimpa à bord de la tartane abandonnée, et, debout sur l'avant ponté, devint le point de mire de tous les yeux. Une mouette s'envola avec un cri furieux. Le fond de la partie découverte de la cale ne contenait qu'un peu de sable, des morceaux de bois, un crochet rouillé et des brins de paille que le vent avait dû transporter pendant des lieues avant qu'ils ne trouvassent là leur repos. Le pont arrière avait une petite claire-voie et un capot d'échelle. Pérol resta fasciné devant un énorme cadenas qui assurait la porte à glissière. On eût dit qu'elle renfermait des secrets ou des trésors, et très probablement elle était vide. Pérol se retourna, et de toute la force de ses poumons, cria dans la direction des femmes de pêcheurs, auxquelles s'étaient joints deux vieillards et un bossu qui se balançait entre deux béquilles. « Qui est-ce qui s'occupe de cette tartane ? Où est le gardien ?» La seule réponse fut d'abord un mouvement de recul. Seul le bossu demeura sur place, et répondit d'une voix forte, à laquelle on ne se serait pas attendu, « Personne n'est monté à bord depuis des années !» Les femmes de pêcheurs admirèrent sa hardiesse, car Pérol leur paraissait un être formidable. « Je m'en doute, » pensa Pérol, « elle est dans un fichu état. » La mouette qui l'avait dérangée avait ramené des amis aussi indignes qu'elle, et elle tournoyait à différentes hauteurs, en poussant des cris sauvages au-dessus de la tête de Pérol. Il cria de nouveau « À qui appartient-elle » L'homme aux béquilles leva le doigt vers les oiseaux qui tournoyaient et répondit d'une voix creuse « Ce sont les seuls que je connaisse. » Puis, comme Pérol le regardait par-dessus le bastingage, il continua « Ce bateau a appartenu à Escampobard. Vous connaissez Escampobard. C'est une maison dans le creux, là, entre les collines. » « Oui, je connais Escampobard, » cria Pérol en se retournant et en s'appuyant contre le mât dans une attitude qu'il conserva assez longtemps. Son immobilité finit par lasser la foule. Ils se retirèrent lentement, tous ensemble, vers leur cabane, le bossu formant l'arrière-garde, balancé entre ses béquilles, et Pérol demeura seul avec les mouettes en colère. Il resta longtemps à bord du bâtiment tragique qui avait conduit les parents d'Arlette à la mort lors de ce massacre vengeur de Toulon, et qui avait ramené la jeune Arlette et le citoyen Cévola à Escampobard, où la vieille Catherine, demeurée seule, avait attendu pendant des jours pour voir revenir quelqu'un. Des jours d'angoisse et de prière, tandis qu'elle écoutait le grondement des canons autour de Toulon, et, avec une terreur différente et presque plus grande, le silence de mort qui lui succédait. Pérol, tout à la joie de sentir une embarcation sous ses pieds, ne s'abandonna à aucune des images d'horreur auxquelles cette tartane désolée se trouvait associée. Il ne rentra à la ferme que tard dans la soirée, si bien qu'il dut prendre seul son souper. Les femmes s'étaient retirées, le sans-culotte qui fumait sa pipe dehors l'avait suivi dans la cuisine, et lui avait demandé où il avait été et s'il s'était égaré. Cette question fournit une entrée à Pérol. Il était allé à Madrague et avait vu une fort jolie tartane qu'on laissait pourrir sur la grève. « On m'a dit là-bas qu'elle vous appartient, citoyen. » Le terroriste se contenta de cligner des yeux. « Qu'y a-t-il ? Ce n'est pas ce bateau sur lequel vous êtes venu ici ? Vous ne voulez pas me le vendre ?» Pérol attendit un moment. « Quelle objection avez-vous ? » Le patriote, visiblement, n'avait aucune objection positive. Il marmotta vaguement que la tartane était très sale, ce qui fit que Pérol le regarda avec étonnement. « Je suis prêt à la prendre comme elle est. » « Je serai franc avec vous, citoyen. Voyez-vous, pendant qu'elle était à quai à Toulon, un groupe de traîtres qui fuyaient, des hommes, des femmes, des enfants aussi, grimpèrent à bord et coupèrent les amarres avec l'espoir de s'enfuir. Mais les vengeurs n'étaient pas loin derrière et eurent bientôt fait de les mettre à la raison. Quand nous avons découvert la tartane derrière l'arsenal, moi et un autre homme, il nous a fallu jeter par-dessus bord quantité de cadavres que nous tirâmes de la cale et de la cabine. » Vous trouverez tout très sale. On n'a pas eu le temps de nettoyer. » Pérol eut envie de rire. Il avait vu des ponts ruisseler de sang et avait lui-même aidé à jeter des corps par-dessus bord après un combat. mais il considéra le citoyen d'un œil peu amical. Il a pris part au massacre, sans aucun doute, se dit-il à lui-même, mais il ne fit à haute voix aucune remarque. Il pensait seulement à l'énorme cadenas qui fermait ce charnier vide à l'arrière. Le terroriste insista. « Nous n'avons vraiment pas eu un moment pour nettoyer. Les circonstances étaient telles que je dus partir au plus tôt, de crainte de voir quelques prétendus patriotes me faire un mauvais parti. On se querellait beaucoup dans ma section, et je n'ai pas été le seul à partir, vous savez. » Perrol, d'un geste du bras, coupa court à l'explication. Mais avant que le terroriste et lui se fussent séparés pour la nuit, Perrol put se considérer comme le possesseur de la tartane tragique. Le lendemain, il retourna au hameau et s'y établit pendant quelque temps. La terreur qu'il avait inspirée se dissipa, encore que personne ne se souciât de s'approcher de la tartane. Perrol n'avait besoin d'aucune aide. Il fit sauter lui-même l'énorme cadenas avec une barre de fer et la lumière du jour entra dans la petite cabine où des traces de sang sur les boiseries témoignaient encore du massacre, mais qui ne contenait rien d'autre qu'une touffe de longs cheveux et une boucle d'oreille, une chose sans valeur que Perrol ramassa et considéra un moment. Les souvenirs de semblables trouvailles n'étaient pas étrangères à son passé. Il pouvait, sans grande émotion, se représenter la cabine encombrée de cadavres. Il s'assit et regarda les taches et les éclaboussures que la lumière du jour n'avait pas touchées depuis des années. La petite boucle d'oreille était posée devant lui, sur la table mal équarrie, entre les coffres, et il hocha la tête lourdement. Lui, du moins, n'avait jamais été un boucher. Il fit seul tout le nettoyage. Puis il s'occupa avec amour du gréement de la tartane. Il avait conservé des habitudes d'activité. Il était heureux d'avoir quelque chose à faire. Cette tâche lui convenait et prenait l'aspect de préparatifs de voyage. C'était un agréable rêve et qui chaque soir lui apportait la satisfaction d'avoir fait quelque chose en vue de ce but illusoire. Il fit un gréement, gratta lui-même les mâts, balaya, peignit sans l'aide de personne, travaillant assidûment, comme s'il se préparait à fuir d'une île déserte. Dès que la petite cabine eut été nettoyée et remise en état, il prit l'habitude de coucher à bord. Une fois seulement, il monta faire une visite à la ferme, pendant 2 jours, comme pour se donner un congé. Il l'employa surtout à observer Arlette. Elle était peut-être le premier être humain problématique qu'il eût jamais rencontré. Il n'avait pas de mépris pour les femmes. Il les avait vues aimer, souffrir, endurer la misère, se disputer et même combattre à main armée comme des hommes. En général, avec les hommes et les femmes, il fallait se tenir sur ses gardes. Mais à certains égards, on pouvait avoir davantage confiance dans les femmes. En fait, les femmes de son pays lui était beaucoup plus étrangère que les autres. Son expérience de différentes races lui avait toutefois donné l'idée vague que les femmes étaient partout assez semblables les unes aux autres. Celle-ci était une très aimable créature. Elle lui faisait l'effet d'un enfant et éveillait en lui une sorte d'émotion intime qu'il ne pensait pas qu'un homme pût ressentir. Il ne fut pas sans s'étonner du caractère désintéressé qu'avait cette émotion. « Est-ce que je deviens vieux ?» se demanda-t-il tout à coup. Un soir, qu'assis sur le banc contre le mur, il regardait droit devant lui, après qu'il l'avait vu passer devant lui. Il se sentait observé par Catherine qu'il avait vu le regarder à la dérobée ou par l'entrebâillement des portes. Perrol se leva lentement. « Bonsoir, lui dit-il. Je m'en vais à ma drague. J'ai affaire sur la tartane au petit jour. »« Ne me parlez pas de cette tartane, » dit Catherine. Elle a emmené mon frère pour toujours. Je suis resté sur le rivage, à regarder ses voiles devenir de plus en plus petites. Ensuite, je suis remonté toute seule ici. Ne me parlez pas de cette tartane, dit Catherine. Elle a emmené mon frère pour toujours. Remuant avec calme ses lèvres fanées qu'aucun amoureux, qu'aucun enfant n'avait jamais embrassées, la vieille Catherine raconta à Perrol les jours, les nuits d'attente, avec le canon grondant à ses oreilles. Elle avait passé des heures assise sur le banc dehors, à attendre des nouvelles, à regarder des lueurs sur le ciel, à écouter l'éclatement sourd des coups de canon. Et puis, un soir, ça avait été comme la fin du monde. Le ciel était tout illuminé, la terre tremblait sur ses fondements, et il lui sembla que la maison chancelait. Elle se leva en sursaut sur son banc et se mit à crier de terreur. Cette nuit-là, elle ne s'était pas couchée. Le lendemain, elle vit la mer couverte de navires et un nuage de fumée noire et jaune au-dessus de Toulon. Un homme qui montait de Madrague lui dit qu'il croyait que toute la ville avait sauté. Elle alla lui chercher une bouteille de vin et il l'aida ce soir-là à donner la pâture aux bêtes. Avant de redescendre chez lui, il déclara qu'il ne devait plus y avoir âme qui vive à Toulon parce que les quelques survivants seraient sûrement partis à bord des navires anglais. Une semaine plus tard, elle somnolait près du feu lorsqu'elle fut réveillée par un bruit de voix au dehors et elle aperçut, droit au milieu de la salle, pâle comme une morte sortie d'une tombe, avec une couverture tachée de sang sur les épaules et un bonnet rouge sur la tête, une petite fille à l'air égaré, dans laquelle elle reconnut soudain sa nièce. Terrifiée, elle se mit à crier « François ! François !» C'était le nom de son frère, elle le croyait dehors. Son cri effraya l'enfant qui s'enfuit vers la porte. Tout, au dehors, était tranquille. Elle cria une fois encore « François !» Et ayant, en chancelant, gagné la porte, elle vit sa nièce qui se cramponnait à un homme étrange, coiffé d'un bonnet rouge, un sabre au côté, et qui hurlait « Vous ne reverrez plus François ! Vive la République !» « Je reconnus le fils Bron, » continua Catherine. « Je connaissais ses parents. » Quand les troubles avaient commencé, il était parti de chez lui pour suivre la Révolution. Je marchais droit vers lui et m'emparais de l'enfant. Elle ne fit pas de difficulté. Elle m'avait toujours aimé. Elle se leva de son tabouret et, s'étant rapprochée de Pérol, elle reprit. Elle se rappelait bien sa tante Catherine. J'arrachais l'horrible couverture de ses épaules. Ses cheveux étaient souillés de sang, ses vêtements en étaient tout tachés. Je la conduisis en haut. Elle était aussi faible qu'un petit enfant. Je la déshabillai et l'examinai. Elle n'avait aucune blessure. Mais c'était tout ce dont j'étais sûr. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle marmottait. Sa voix même me bouleversait. Elle tomba de sommeil aussitôt que je l'eus mise dans mon lit, et je suis resté là à la regarder, à demi-folle à la pensée de tout ce que cet enfant avait dû traverser. Quand je descendis, je trouvai ce propre Arien dans la maison. Il parcourait la salle en vociférant. Je pensais que tout cela ne devait être qu'un affreux rêve. La tête me tournait. Il réclamait l'enfant et Dieu sait quoi. Je croyais comprendre des choses qui me faisaient dresser les cheveux sur la tête. Je me tordais les mains de toutes mes forces, de peur de devenir folle. « Il vous faisait peur, » dit Pérol en la regardant fixement. Catherine se rapprocha encore de lui. « Quoi, le fils Bron, me faire peur ? Il était la risée de toutes les filles quand il baguenaudait parmi les gens autour de l'église les jours de fête du temps du roi. Tout le pays le connaissait. Non, ce que je me disais, c'est qu'il ne fallait pas le laisser me tuer. Il y avait là-haut l'enfant que je venais de lui arracher, et j'étais là toute seule avec cet homme armé d'un sabre, sans pouvoir mettre la main même sur un couteau de cuisine. Et c'est ainsi qu'il est resté. Que pouvais-je faire ? Demanda Catherine d'un ton ferme. Il avait ramené l'enfant de cet abattoir. Il me fallut longtemps pour me faire une idée de ce qui s'était passé. Je ne sais pas encore tout, et je suppose que je ne le saurai jamais. Au bout de quelques jours, je fus rassuré sur Arlette, mais elle fut longtemps sans vouloir parler, et ce n'était jamais à ce sujet. Qu'aurais-je fait toute seule ? Il n'y avait personne que je pusse condescendre à appeler à mon aide. Nous autres gens d'Escampaubard, nous n'avons jamais été très en faveur auprès des paysans d'ici, dit-elle avec orgueil. Et voilà tout ce que je peux vous dire. La voix lui manqua. Elle se rassit sur le tabouret et se prit le menton dans la paume de sa main. Comme Pérol quitta la maison pour se rendre au hameau, il aperçut Arlette et le patron qui tournaient le coin du mur de la cour, côte à côte, mais comme s'ils n'en avaient conscience ni l'un ni l'autre. Cette nuit-là, il dormit à bord de la tartane remise en état, et au lever du soleil, il était déjà au travail. Il avait cessé d'être un objet de terreur pour les habitants du hameau, qui gardait pourtant encore une attitude méfiante. Son seul intermédiaire pour communiquer avec eux était le misérable infirme. Ce fut, à vrai dire, la seule compagnie de Pérol tout le temps qu'il travailla sur la tartane. Il avait plus d'activité, d'audace et d'intelligence, semblait-il à Pérol, que tout le reste des habitants ensemble. Dès le petit matin, on pouvait le voir, balancé comme un pendule entre ses béquilles, se diriger vers la tartane, sur laquelle Pérol était déjà au travail depuis une heure environ. Pérol lui lançait un bout de sonde, et l'infirme, posant ses béquilles contre le flanc du navire, hissait à bout de bras avec une extrême facilité sa misérable petite carcasse, toute rapouquerie, à partir de la taille. Une fois là-haut, assis sur le gaillard d'avant, adossé au mât, croisant devant lui ses petites jambes, il tenait compagnie à Pérol, lui parlant d'un bout à l'autre de la tartane, en forçant la voix, et partageant son repas de midi, comme de juste, puisque c'était lui qui, généralement, apportait les provisions dans un petit panier suspendu à son cou. Pérol, occupé à une chose ou une autre, l'écoutait, sans paraître y prêter grande attention, racontait les histoires de la Révolution, comme si quelque intelligent insulaire de l'autre bout du monde lui racontait les rites sanguinaires et les espérances étranges d'une religion inconnue du reste de l'humanité. Mais les propos de cet infirme avaient quelque chose de mordant qui n'était pas sans le surprendre. Le sarcasme était un mystère qu'il ne saisissait pas. Un jour qu'assis tous deux sur le gaillard d'avant, ils mâchonnaient le pain et les figues de leur repas de midi, Pérol dit à son ami l'infirme, « Il y avait peut-être quelque chose là-dedans, mais il ne semble pas que ça vous ait servi à grand-chose par ici. »« Sûr, répliqua avec vivacité le petit bout d'homme, que ça ne m'a pas redressé le dos, ni donné une paire de jambes comme les vôtres. » Pérol, qui venait de laver la cale et dont le pantalon était relevé au-dessus du genou, regarda ses mollets avec complaisance. « Vous ne pouviez guère vous attendre à cela, » remarqua-t-il avec simplicité. « Ah, mais vous ne savez pas à quoi des gens avec le corps bien fait s'attendent ou prétendent, » dit l'infirme. « On allait tout changer. On allait attacher ses chiens avec des saucisses par amour pour les principes. » Son long visage, qui avait au repos cette expression de souffrance particulière aux infirmes, s'éclaira d'une énorme grimace. « Ils doivent se trouver joliment refaits maintenant, » ajouta-t-il, et, naturellement, ça les contrarie, mais pas moi. Je n'en ai jamais voulu ni à mon père ni à ma mère. Tant que les pauvres gens ont vécu, je n'ai jamais eu faim, très faim. Ils ne pouvaient guère être très fiers de moi. Il se tut et sembla se considérer lui-même intérieurement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place, quelque chose de très différent. Mais c'est que, voyez-vous, je sais ce que c'est d'être comme je suis. Eux, ils ne pouvaient pas le savoir, bien sûr, et je ne crois pas que les pauvres gens avaient beaucoup d'esprit. Un prêtre d'Almanar, Almanar est une espèce de village là-haut, où il y a une église, Pérol l'interrompit pour lui dire qu'il n'ignorait rien d'Almanar. C'était là une simple illusion de sa part, vu qu'en réalité, il connaissait beaucoup moins Almanar que Zanzibar, ou de n'importe quel village depuis là jusqu'au cap Gardafui. Et l'infirme le regardait de ses yeux bruns, qui avaient un air naturellement étonné. « Comment, vous savez ?»« Pour moi, continua-t-il d'un ton tranquille et décidé, vous êtes un homme tombé du ciel. » Donc, un prêtre d'Almanar est venu les enterrer. Tout cela se passait du temps du roi. Ils ne lui ont coupé la tête que quelques années plus tard. Ça ne m'a pas rendu la vie plus facile. Mais depuis que ces républicains ont déposé Dieu, et l'ont chassé de toutes les églises, je lui ai pardonné tous mes ennuis. Voilà qui est parlé comme un homme, dit Pérol. Ce ne fut que lorsque le soleil eut passé au-dessus du cap Sissier, qui s'allongeait sur l'eau comme un brouillard sombre dans la lumière, qu'il ouvrit de nouveau la bouche pour demander « Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, citoyen ?» Pérol répondit simplement que la tartane pourrait aller n'importe où dès qu'on l'aurait mise à l'eau. « Vous pourrez aller jusqu'à Gênes et à Naples, et même plus loin, » suggéra l'infirme. « Beaucoup plus loin, » dit Pérol. « Et vous l'avez mise en état, comme cela, pour faire un voyage ?»« Certainement, » dit Pérol, en maniant son pinceau d'une main ferme. « De toute façon, je ne crois pas que ce soit un long voyage. » Pérol ne ralentit pas le va-et-vient de son pinceau, mais ce ne fut pas sans effort. Il s'était découvert une indubitable répugnance à s'éloigner de la ferme d'Escampobar. Le désir d'avoir à lui une embarcation quelconque n'avait plus maintenant aucun rapport avec un désir de vagabondage. L'infirme avait raison. Le voyage de la tartane remise à neuf ne l'entraînerait pas très loin. Ce qui était surprenant, c'était que l'infirme eût été si positif à ce sujet. On aurait dit qu'il pouvait lire dans la pensée des autres. Ce fut une grande affaire que de mettre à l'eau la tartane. Toute la population du hameau attendait les ordres de Pérol, les uns sur le rivage, d'autres dans l'eau jusqu'à la ceinture, tous avec des cordes dans les mains. Quand la tartane fut à l'eau, la sensation d'être à flot fit tressaillir le cœur du vieux Pérol. L'infirme avait convaincu quelques pêcheurs de Madrague de l'aider à conduire la tartane jusqu'à l'anse qui se trouvait au-dessous de la ferme d'Escampobar. Un soleil magnifique éclaira cette courte navigation et l'anse elle-même étincelait de lumière quand ils l'atteignirent. Les quelques chèvres d'Escampobar, qui vagabondaient sur le penchant de la colline et prétendaient se nourrir là où aucune herbe n'était visible à l'œil nu, ne levèrent pas la tête. Une douce brise mena la tartane, toute fraîche sous sa peinture neuve, face à une étroite crevasse taillée dans la falaise qui donnait accès à un petit bassin, pas plus grand qu'une mare de village, et qui se cachait au pied de la colline du sud. C'est là que le vieux Pérol, aidé des gens de Madrague, monté sur leur barque, remorqua son bâtiment, le premier qu'il eût réellement jamais possédé. La tartane, une fois là, remplit presque l'étendue du petit bassin, et les pêcheurs, remontant dans leur barque, rentrèrent chez eux à la rame. Pérol passa l'après-midi à déhaler les haussières, qu'il tourna à des roches et à des arbustes pour l'amarrer à son idée. La tartane se trouvait aussi abritée des tempêtes qu'une maison sur la côte. Après avoir mis tout en ordre à bord et avoir cargué convenablement les voiles, ce qui demandait du temps pour un seul homme, Pérol contempla son ouvrage qui respirait plutôt le repos que l'aventure, et il en fut très satisfait. Bien qu'il n'eût jamais eu l'idée d'abandonner sa chambre à la ferme, il sentit que son foyer véritable était la tartane, et il se réjouit de la savoir cachée à tous les regards, hormis peut-être à ceux des chèvres que le soin ardu de leur nourriture menait sur le versant méridional de la falaise. Il s'attarda à bord, il ouvrit même la porte à glissière de la petite cabine, qui avait maintenant une odeur de peinture fraîche et non de sang. Avant qu'il se fût mis en route pour la ferme, le soleil avait déjà passé au-delà de l'Espagne. Tout le ciel à l'ouest était jaune, tandis que du côté de l'Italie, il formait un dais sombre où perçait çà et là l'éclat des étoiles. Il passa désormais une grande partie de son temps à bord, descendant de bonne heure, remontant à midi pour manger la soupe, et couchant à bord presque chaque soir. Il n'aimait pas laisser la tartane seule. Souvent, après avoir déjà pris le chemin de la maison, il se retournait pour jeter sur son navire un dernier regard au crépuscule, et il revenait sur ses pas. Après que Michel eut été engagé comme équipage et eut pris ses quartiers à bord, Pérol put plus facilement passer la nuit dans la chambre en forme de lanterne qu'il avait au sommet de la maison. Souvent, réveillé au milieu de la nuit, il se levait pour aller contempler le ciel étoilé successivement par ses trois fenêtres, et il pensait « Rien au monde ne peut maintenant m'empêcher de prendre la mer en moins d'une heure ». Deux hommes, en effet, pouvaient aisément conduire la tartane. Aussi, cette pensée était-elle pour Pérol véritablement réconfortante à tous égards, car il aimait se sentir libre, et Michel, depuis la mort de son pauvre chien, n'avait plus aucun lien sur la terre. C'était là une pensée si agréable que, le cœur à l'aise, il retournait se coucher et se rendormait.